mystérieuse épidémie.
Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes.
Allez, chacun rentre chez soi.
À partir de maintenant, c'est simple. Ça va être chacun chez soi.
Bonsoir à toi. Je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle.
La vie est une jungle, tu sais.
On est bien chez soi, quand même.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme.
La routine habituelle, quoi.
C'est monotone.
Je m'ennuie.
Qu'est-ce qu'il y a, ça vous plaît pas?
Si, mais c'est tellement triste.
Triste? Pourquoi triste?
Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux.
Mais qui est loin de chez eux?
Je sais pas, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur terre et qui se lancent à corps perdu sur les routes pour fuir l'oppression.
Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade.
Toi, malade? Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux.
Alors, vous croyez, Madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Chronique des confins. Chronique des confins. Chronique des confins.
Bonjour les auditeurs timbrés et bienvenue dans la chronique des confins déconfinés. Au programme aujourd'hui, je vous propose une interview de JBX, créateur de la saga audio Reflet d'Acide. Que ceux qui se sentent perdus ne s'inquiètent pas, tout vous sera expliqué. Cette interview étant dense en informations, elle a été découpée en deux parties. Voici maintenant la première. Bonjour et bienvenue sur Timbre FM sur le 106.6 MHz. Nous sommes aujourd'hui avec JBX, le créateur de la saga audio Reflet d'Acide. Bonjour JBX.
Eh bien, bonjour.
Tout d'abord, je vais te demander de te présenter en tant que créateur et de présenter ton univers.
Mon Dieu, toujours aussi difficile ça comme exercice. Alors, donc, je suis... Alors, voilà, je ne me fais nommer que par trois lettres, JBX. Ça reste toujours un petit peu étrange, mais ça, c'est les années 2000 où tout le monde avait un pseudo. Donc, j'ai gardé celui que j'utilisais pour marquer mes high scores au flipper. c'est dire si ça nous ramène à quelques années. Et donc, voilà, depuis 2002, je commets une saga audio une saga MP3 comme on disait à l'époque, une fiction sonore comme on dirait dorénavant, ou presque un podcast, donc une saga MP3 on va dire depuis 2002 qui s'appelle Reflet d'Acide, et qui est une sorte on va dire de film sans image, autrement dit voilà, une aventure qui s'écoute forcément avec différentes voix plus ou moins sérieuses. Que je fais moi-même, puisque depuis 2002 je n'avais pas d'amis sur place pour m'accompagner dans mes bêtises, et voilà, donc j'ai commencé une saga audio suite à l'écoute répétée déjà de Monsieur François Pérusse avec les 2 minutes du peuple.
Un classique.
Et puis, voilà, un grand classique. Et puis surtout, John Lang avec Puck et le donjon de Noël Buck. Et il devait y avoir 3 ou 4 épisodes. Et je me suis dit, tiens, je vais m'amuser à faire une aventure basée sur notre jeu de rôle amateur qui s'appelait Reflet d'Acier. Donc là, on sent bien déjà que c'était quand même un private joke au départ et que ça aurait dû le rester. Parce que c'était le but de ne faire cette saga que pour 5 amis rôlistes finalement. Et bon, il y a un lien qui a été partagé, la honte m'a envahi parce que je me suis dit, mais il y a des gens qui vont écouter ces pitreries alors que c'est vraiment que des... C'était vraiment que des petits private jokes hein, au départ. Donc j'ai refait mes premiers épisodes et puis on m'a encouragé à continuer. Et voilà, depuis 2002, j'ai fait donc une saga qui compte actuellement, qui compte pour finir la saison 1 en 16 épisodes. Et bon, je serai amené certainement à continuer puisque j'ai d'autres choses à dire certainement avec les personnages que j'ai pu imaginer. Comme première petite présentation, c'est pas mal.
Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer en une phrase ce qu'est une saga audio pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, qui ne sont jamais tombés dessus ?
Oui, alors voilà, Saga Audio, c'est tout simplement voilà, une sorte de film sans image. La plupart du temps, moi je dis ça, c'est on a juste la bande-son, donc on va avoir les bruitages, on va avoir les musiques, on va avoir bien sûr les dialogues, et à partir de là, on va avoir la description d'un univers, d'une succession de petites aventures, etc. On joue évidemment beaucoup avec la voix, avec les voix. Alors moi, en l'occurrence, j'ai été obligé d'en imaginer plusieurs pour que les différents protagonistes soient assez distincts les uns des autres. Mmh. Voilà, c'est comme une sorte de livre avec tous les effets d'accompagnement d'un film, finalement.
Presque un livre audio.
C'est presque un livre audio, mais en plus, on a ce côté film avec voilà, les musiques qui collent à l'ambiance, les bruitages, etc. Enfin, on a... voilà, il nous manque que les images, mais là, ça prendrait d'autres proportions. Je n'ose même pas les imaginer, surtout que là, il s'agit d'un monde médiéval fantastique, haut en couleur, avec tout ce qu'il a parfois de caricatural ou parfois de... ouais, c'est l'imaginaire, forcément. Donc ça serait assez compliqué. Donc grâce à l'audio, on a une partie de notre cerveau qui est là pour combler le vide des images et s'imaginer tout ce qui peut se passer dans ce qui est dit, en tout cas dans cette aventure. Voilà.
Alors cette première saga, ou en tout cas première partie de saga, est aujourd'hui finie. Mais oui. L'histoire est très dense en informations et les premiers épisodes ne laissaient pas imaginer une telle épopée. Est-ce que la trame était déjà présente dans ton esprit dès le début ou bien elle s'est construite au fur et à mesure que la saga avançait ?
Alors voilà, là c'est un drôle d'exercice auquel j'ai été obligé de... je me suis confronté finalement à un exercice un peu particulier puisque... au début, j'ai fait cette saga, donc juste pour amuser un petit cercle d'amis, sans savoir véritablement où j'allais. Donc j'utilisais les poncifs du genre, eh bien les héros comme par hasard se retrouvent dans une taverne, ils se connaissent pas, mais bon, quand même...
La taverne des voyageurs.
Voilà, exactement, ils vont quand même faire une quête. Alors la quête, elle a pas l'air super intéressante, on va même pas lui donner de nom. Ils vont traverser plusieurs territoires assez emblématiques de ce qu'on peut trouver finalement dans un jeu de rôle ou dans une aventure, une sorte de voyage initiatique jusqu'à l'endroit où doit se faire la quête. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que effectivement, j'avais jalonné comme ça, voilà, des noms assez chaotiques avec des noms très moche puisque chaotique, mais sans savoir du tout que j'allais continuer aussi longtemps et même avec un véritable scénario au départ. En fait, jusqu'à l'épisode 6, bon, on suit des bras cassés plus ou moins, enfin, pas vraiment, mais dans leur réaction, parfois c'est un peu limite. Et je n'avais effectivement qu'une vague idée de ce qui allait se passer. Et c'est à partir de l'épisode 6, 7 que les choses ont commencé à changer. J'ai été obligé de commencer à raccrocher les wagons à ce que j'avais déjà dévoilé un petit peu dans les premiers épisodes. Donc finalement, ce récit, qui semble, alors pour ceux qui m'en font les retours, très cohérent, très pensé depuis le début, c'est... Non. pas du tout. Non, c'est que j'ai fait, par la force des choses, une sorte de puzzle à l'envers. Chaque fois que je faisais une sorte de coup de théâtre à la fin d'un épisode, je me disais, voilà, là, j'ai un chouette coup de théâtre. Qu'est-ce qui va se passer après ? Et zut, c'est moi qui dois écrire la suite. Et bon, mais alors comment ça se passe ? Donc à chaque fois, je me mettais effectivement dans une situation où je devais réfléchir à la cohérence de ce qui devait se faire tout en m'appuyant sur ce qui avait été.
Tu faisais un peu tes propres cliffhangers.
Ouais. Oui, mais c'est ça. En fait, chaque épisode avait sa logique, avait une ça tendait vers le coup de théâtre que j'envisageais, que j'aurais bien aimé voir dans un film comme ça. Sauf que je savais pas ce qu'il y avait derrière. Bon, ça doit bien exister, mais c'est pas le plus confortable pour écrire un récit.
je veux bien croire.
Voilà. Mais c'était très 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 intéressant, très passionnant de partir sur cette base-là, parce que finalement je me suis moi-même surpris d'une certaine façon. Les personnages m'ont échappé complètement, j'ai été obligé de suivre la logique que j'avais imaginée pour eux. Et en fait, en quelques mots, pour présenter quand même le contexte, c'est que il y a une sorte de narrateur dans cette histoire qui fait partie intégrante de ce monde médiéval fantastique, une sorte de voix que seuls les élus entre guillemets peuvent entendre, et ça c'est la caricature typique, on va dire, de ce qui se passe dans un jeu de rôle. Dans un jeu de rôle, il y a des personnages joueurs, et il y a le maître du jeu qui est là à leur parler, à interagir, et parfois ça sort effectivement de ce que l'on appelle le roleplay, c'est-à-dire on n'est plus vraiment ancré dans le monde, mais bon, il y a des petites réflexions qui sortent un peu du contexte. et ce truc-là, ça m'amusait beaucoup, et je me suis dit, tiens, bon, le narrateur, voilà, bon, ben, il interagit de temps en temps avec les personnages qui... Seuls ces personnages peuvent l'entendre, et tout le reste, tout ce qu'on appelle les PNJ, n'entendent pas le narrateur. Donc déjà, voilà, il y avait ce côté-là qui sortait un petit peu, ouais, qui pour moi était la caricature du jeu de rôle en lui-même. Et aussi, finalement, donc cette petite équipe de 5 personnages au départ, qui va petit à petit devoir interagir avec d'autres, et puis... on va se retrouver à savoir ce qui se passe pour notre équipe et puis pour d'autres protagonistes qui se retrouvent, qui étaient des personnages secondaires au départ et qui deviennent de plus en plus primaires, j'allais dire, premiers en tout cas. Et voilà, et donc ça a grossi, la durée des épisodes a grossi au fur et à mesure que je rajoutais de nouveaux personnages pour tendre vers cette aventure qui devient un petit peu apocalyptique vers la fin. Et voilà, donc c'est une grosse échappée, on va dire, que je n'avais absolument pas prévue.
Mais alors, tu dis que seuls les élus peuvent entendre le narrateur, mais du coup, par exemple, je pense à Roger le Tavernier, qui est au début imaginé comme un PNJ, je suppose.
Exactement, ouais.
Est-ce que lui se retrouve à entendre le narrateur, au fur et à mesure que son rôle devient plus important ?
Et voilà, à un moment donné, il y a un basculement, c'est-à-dire que le personnage secondaire devient tellement important que on se demande s'il n'entend pas parfois aussi le narrateur. Normalement, non, mais... voilà, on a quelques petits doutes. Mais normalement, non, ça reste quand même un personnage non-joueur. Il n'y a que les 5 héros principaux qui interagissent directement avec le narrateur. Tous les autres sont parfois surpris par les réactions de justement des joueurs qui, eux, entendent le narrateur et ne savent pas que... Ils ne sont pas concernés. Voilà. Ouais, tout à fait.
Reflet d'acide, c'est aussi une œuvre extrêmement référencée, et il y a beaucoup de comiques de mots, et c'est pas rare pour les fans de découvrir de nouvelles références en réécoutant la saga. Est-ce qu'il y a un but derrière ces références ?
Alors le but, c'est la vengeance. C'est-à-dire que le but, c'est qu'en fait, c'est tellement long à faire, effectivement, que je me suis amusé à mettre plein de petites références plus ou moins faciles à trouver. Et je me dis, voilà, ça, il n'y a que l'auditeur qui va écouter plein de fois l'aventure qui va peut-être déceler ce petit clin d'œil ou cette référence très capillotractée, etc. Donc ça fait partie du jeu, entre les auditeurs et moi, auditeurs-auditrices. Et donc forcément, c'est... Après, voilà, je me suis moi-même, en fait, au fur et à mesure de l'avancée de l'aventure, je me suis rajouté des contraintes. Alors la première contrainte, ça a été par exemple de faire des références à mes films préférés, à mes films cultes, que ce soit SOS Phantom, que ce soit Indiana Jones. Bon, c'est film culte pour beaucoup de personnes. Et après, je me suis rajouté d'autres contraintes, alors plus rhétoriques. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire rimer à peu près tout. Donc là, je suis sûr de perdre à peu près tout le monde, parce que les Alexandrins et tout ça, mais ça m'amusait de faire... j'aime bien, en fait, la musicalité des mots. C'est un petit peu mon péché mignon, c'est-à-dire que même dans une lettre que je vais écrire à l'administration... je risque de mettre, sans le vouloir, des rimes un petit peu partout. Voilà, même pour des lettres. J'ai une sorte de toc à ce niveau-là. Donc, bon, là, j'ai cédé à mon toc. Au bout d'un moment, je me suis dit, allez, je vais écrire en, en alexandrin, en vers. Ce que je n'ai pas, fort heureusement, à l'oral, parce que là, évidemment, je n'ai pas le bon système de pensée pour pouvoir effectivement réaliser des alexandrins.
C'est plus difficile à l'oral.
Voilà, c'est beaucoup plus. Ah oui, là, il faut un talent que je n'ai absolument pas. Moi, c'est une écriture tellement laborieuse. Parfois, je peux passer une heure sur une simple phrase. Enfin, c'est.
Ah oui.
C'est vraiment. Ouais, c'est vraiment parfois très, 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 très laborieux. Mais voilà, je me suis ajouté effectivement des petites contraintes comme ça de rhétorique, de petites références. Après ça peut débouler sur des petits clins d'œil, à des jeux de cartes, à des enfin à plein de choses. Parfois aussi à des choses plus littéraires, mais bon, même si moi je me considère absolument pas comme un littéraire, mais il y a des choses qui me reviennent de Victor Hugo, de Mallarmé, de l'Apollinaire, etc. Donc il y a voilà des petites choses que j'aime bien inclure dans ce petit jeu avec les auditeurs pour savoir est-ce que vous avez
oui ça peut autant être de la pop culture que des choses des œuvres qu'on verra en français.
Il y a absolument aucun pour le coup je suis très très éclectique dans ce que je peux apprécier, enfin que ce soit en musique, en film, en lecture diverses et variées, même si je ne suis au bout d'un moment, en fait, je suis devenu un piètre lecteur parce que je suis plus dans la création, un petit peu, alors effréné, non, pas vraiment, mais j'ai toujours besoin de créer, d'imaginer, et du coup, j'ai plus le temps de m'arrêter pour essayer de découvrir d'autres choses. Ça, c'est un peu embêtant. Ça, c'est le travers un peu de ce que c'est devenu. Même, imaginons une musique que j'entends, musique classique que j'entends, je vais plutôt que d'en profiter, je vais imaginer, tiens, quelle scène je pourrais créer pour la mettre en avant.
D'accord.
Et donc, parfois, une des contraintes aussi, ça a été d'utiliser des musiques qui, pour moi, sont exceptionnelles pour créer une scène spécialement adaptée à la musique. Voilà, donc j'ai été obligé de tordre parfois mon scénario de façon à ce que ça colle avec la musique. Bon, bref. Voilà, donc il y a plein de petites contraintes comme ça, mais sinon tout va bien, hein. Psychologiquement, je suis pas trop mal. Mais voilà, effectivement, ça joue pas mal. Et il y avait aussi de l'époque où il y avait un forum, je m'étais aussi amusé, alors là c'est de la torture, là. Je m'étais amusé à faire des titres de chapitres de tout ce qui se passe dans un épisode, à anagrammer en fait tous les noms des chapitres, et les auditeurs devaient jouer à retrouver le bon titre, etc., sachant que à la fin ils pourraient trouver le véritable titre de l'épisode oui. caché la première lettre de chaque mot de chaque chapitre. D'accord. Et la dernière lettre de chaque mot de chaque chapitre. Voilà, là ça commençait déjà à être un peu plus sordide en fait.
Et pourtant il y avait des acharnés qui y arrivaient.
Ah oui, tout à fait. Ça leur prenait quelques jours. Certains étaient en cours et faisaient des recherches et m'envoyaient leurs brouillons. Regarde ce qu'on est en train de faire à cause de toi. Et voilà. Et en fait, depuis l'épisode 11, en fait, quand on regarde tous les titres et tous les chapitres, en fait, tous les titres sont inclus dans les chapitres, mais cachés, une lettre par. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi, mais ça m'amusait à chaque fois de trouver ce lien aussi, pas du tout audio pour le coup, mais dans le jeu avec les auditeurs et auditrices, c'est assez sympa.
D'accord.
Voilà, donc à chaque sortie d'épisode, évidemment, ça s'est passé dans le temps, mais il y avait ce petit jeu assez sadique, ou masochiste selon qui le fait.
C'en est même devenu une blague, ce temps que tu mettais entre les épisodes qui se terminait généralement par une baffe virtuelle.
Oui, alors c'est pas moi ça au départ qui l'imposait, c'était John Lang, parce que à chaque sortie d'épisode il avait toujours la demande. Et le prochain c'est pour quand? Et le prochain c'est pour quand? Mais oui, bon, forcément, c'est toujours bon signe. Moi je m'en offusque absolument pas, parce que ça veut dire que on attend la suite, on a envie de savoir ce qui se passe après, c'est plutôt positif. Donc, mais après la blague, effectivement, c'était de répondre juste « Zbaf ». Voilà.
Alors, en parlant de Pen of Chaos, on sait que donc, Pen of Chaos, qui est l'auteur du donjon de Nalbuk, il enregistre chaque personnage séparément pour ne pas s'emmêler les pinceaux. Est-ce que tu procèdes de la même façon ?
Tout à fait. En fait, je fais, alors je fais souvent par chapitre. Lorsque j'ai plusieurs protagonistes, eh bien je fais d'abord les répliques que d'un seul protagoniste pour garder à la fois la voix, bon, qui est parfois un petit peu... en fait, là aussi, pour trouver les voix, j'ai cherché très longtemps en fait, des logiciels qui pourraient permettre de bien modifier les voix. Et en fait, non, ça part des cordes vocales et on ne peut pas faire autrement que trouver des astuces pour bien distinguer chaque voix, finalement. Donc, mais effectivement, chaque fois que j'ai un enregistrement à faire, je procède toujours avec un seul personnage. Je défile toutes les voix, plusieurs fois en fait, je fais trois fois la même phrase, voilà. Et comme ça, j'ai un niveau qui est toujours le constant pour le chapitre en question. Donc je pense que c'est le mieux comme méthode. Je me vois mal faire chaque voix au fur et à mesure, d'autant que parfois il y a des réglages. Il y a quand même des réglages. Par exemple, si je dois faire parler la dragonne Aliénor et puis le Zorlim, la dragonne, je vais la pitcher vers le haut au niveau de la voix et le Zorlim vers le bas pour avoir une voix un peu plus grave. Donc forcément, c'est plus facile de raisonner en personnage plutôt que en mixage en live, on va dire.
D'accord, oui, c'est voilà. Effectivement. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des personnages que tu trouves plus difficiles à interpréter que d'autres ou certains que tu apprécies plus interpréter?
Alors, les personnages... Alors, étonnamment, l'un des personnages les plus difficiles à faire pour moi, c'est le mien au départ, c'est Zeyrman, parce que la voix est grave et je ne sais jamais... J'ai du mal parfois à retrouver le juste ton. Donc c'est pas le plus facile à faire. Après, malheureusement, il y a des voix que je fais sans aucun trucage, que ce soit Yanoche ou Bernie ou Trichelieu ou Roger. Donc ça, c'est des voix faciles à refaire, on va dire. Les voix les plus difficiles, bon, Bélial il y a pas mal de couches de technique derrière pour essayer d'avoir une voix un peu qui sorte un petit peu de l'ordinaire, hein, puisque démon oblige, voilà. Mais bon, sinon, non, c'est pas... Les voix que je préfère, effectivement, moi, Yanoche est assez pénible, mais...
Voilà, j'arrive très bien à le faire, très rapidement, et tout le monde n'en peut plus au bout de 5 minutes, voilà.
Il y a quelque chose d'assez irréel à entendre certains persos qui ont bercé notre adolescence.
Oui.
Oui, c'est ça, en fait. C'est particulier pour moi. Il y a aussi des phrases ou des enchaînements de phrases qui sont particulièrement ardues. Il y a quand même des ratés par moment.
Oh oui, ah oui, oui, oui. Ah non, non, c'est sûr, là, je suis obligé de me reprendre parfois, plusieurs fois, pour notamment lorsqu'il y a des petites allitérations ou des assonances un peu compliquées. Il y a notamment Enoriel, à un moment donné, qui... alors, j'ai même plus les phrases en tête, j'oublie évidemment ce que j'écris, puisque si je me les suis notées, c'est pour ne pas les oublier, comme ça, voilà. Donc, il y a des phrases qui sont parfois un peu compliquées. Mais les enregistrements, alors comme je suis tout seul, on va dire, sont assez sérieux, parce que j'ai pas de véritable bêtisier, contrairement à, alors par exemple, Nico et Matt, qui, lorsqu'ils enregistraient tous les deux, et forcément, ils se faisaient rire mutuellement, moi, je ne me fais pas rire du tout. Voilà. Donc, comme ça,
c'est plus facile de rire quand on est plusieurs.
Ouais, clairement. Là, il vaut mieux, effectivement, que je sois tout seul, parce... D'ailleurs, quand je m'enregistre, Pétulia, je lui demande de sortir de l'appartement ou de s'exiler, parce que j'ai honte, en fait, de m'enregistrer. C'est toujours
à ce
un
point.
Peu... Ah oui, oui, j'ai toujours honte de faire des voix, ça me coûte. Je pars de très très loin, en fait, hein, parce que j'étais un hyper timide, mais véritablement maladivement. Et en fait, Reflet d'acide a été une sorte de thérapie contre la timidité, parce que ça m'a obligé déjà à faire l'andouille, même au micro, mais ensuite à cliquer sur partager, déjà, rien que ça, ça me donnait des bouffées d'angoisse. Et donc, ça, de fil en aiguille, alors, soit j'ai mûri, mais je partais quand même de très loin. Donc, voilà, effectivement, je le vois même maintenant comme ça, avec le recul, ça m'a bien aidé.
D'accord. Alors, je me demandais aussi, étant donné que c'est une œuvre extrêmement référencée, quel est le processus d'écriture derrière un épisode de la page, c'est-à-dire de la page vierge jusqu'au micro ?
Alors déjà, le plus laborieux, le plus long, c'est vraiment l'écriture. Parce qu'on pourrait se dire après, oui, les enregistrements, etc. Ça, ça peut aller assez vite. Mais le processus déjà d'envisager telle direction pour le scénario, pour les dialogues, etc. C'est ce qui va prendre le plus de temps. Que ça mûrisse, en fait, que les idées mûrissent. Et pour ça, il n'y a que le temps. Donc je regrette absolument pas, moi, le temps qui passe, parce que ça m'a permis d'éliminer parfois des pistes que j'avais envisagées au départ et qui se sont révélées moins intéressantes que la dernière solution que j'ai pu finalement prendre. Là, rien qu'à la fin de l'épisode 15, qui n'était pas prévu, parce que je m'étais dit l'épisode 15 sera le dernier. Et en fait, bon, il durait déjà depuis une heure... Bon, une heure, je ne sais plus combien, une heure vingt.
Une heure et demie, Je me suis dit,
et là j'ai un super coup de théâtre, il faut que je m'arrête là. Bon, tant pis, l'épisode suivant ne durera que 20 minutes, mais voilà, on va l'arrêter là. Mm-hmm. Et en fait, le temps a passé, entre-temps, je me suis dit, tiens, je vais faire un jeu de plateau. Et le jeu de plateau m'a amené à réfléchir à d'autres choses, m'a conduit à lier la logique que j'avais eue dans le jeu de plateau par rapport au dernier épisode. Donc tout s'est imbriqué et du coup le dernier épisode, au lieu de durer 20 minutes, il dure 1h50. Mais voilà, parce qu'il y a eu en fait dans mon idée de départ, effectivement ça allait se terminer un peu plus vite. Et dans le jeu de plateau, il y a un système où on doit avoir, il y a 12 quêtes possibles. Et dans l'aventure, je n'en avais envisagé qu'une seule. Et tout se passe toujours dans le même lieu, c'est-à-dire une sorte de gouffre qui est en réalité, qui cache un temple très très ancien avec de multiples possibilités. Donc dans le jeu, j'avais envisagé ça. Mais j'ai lié parfois des cartes dans ce jeu, notamment deux salles, une alcôve secrète avec une galerie des glaces. Et bon, j'avais mis comme ça. Hein, Et bien après, je me suis dit, mais... il va falloir quand même qu'ils reviennent à l'alcôve secrète, donc ils vont forcément trouver le portail qui lie la galerie des glaces. Donc comment ça va se passer cette histoire? Et donc les glaces, reflets d'acide, etc. m'ont amené sur autre chose. Bref, donc voilà, ça peut être une petite idée que j'essaye de développer pour voir où ça me mène. Ça peut parfois être aussi le synonyme d'un mot. Juste pour la rime, je suis obligé d'écrire tout un pan de chapitre pour qu'il y ait une chute, un petit truc, ou juste pour la blague.
Juste pour une blague, d'accord.
Parfois, juste un mot qui me plaît. Voilà, c'est juste ça, un mot qui me plaît, je suis parti. Donc voilà, ça peut... Donc c'est pour ça que le processus d'écriture est très, très long, qu'il est très chaotique aussi, parce que je ne peux pas me dire, tiens, là, je vais écrire de telle heure à telle heure. Non, parfois, c'est à 2h du matin, j'ai une idée, il faut que je me lève, désolé, ma chérie, hop. Donc, voilà, c'est particulier, hein. Il y a de la réflexion, mais elle est totalement décousue, je ne sais jamais où je vais. Voilà. Et d'accord. Pareil, avec des personnages, je m'étais débarrassé d'un personnage, et finalement... Je trouve un lien avec... Et voilà, et donc il revient alors qu'il n'était pas prévu qu'il revienne. Donc c'est pas facile.
Eh bien. Et voilà pour la première partie. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus à propos des sagas audio, une chronique de Chez le Disquaire y sera dédiée prochainement. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la seconde partie de l'interview.
Mystérieuse épidémie.
Mais l'infection se répandant et le chaos se généralisant, il ne suffisait plus d'avoir de bonnes jambes.
Allez, chacun rentre chez soi.
À partir de maintenant, c'est simple. Ça va être chacun chez soi.
Bonsoir à toi. Je t'ordonne de cesser toute activité surnaturelle et de retourner immédiatement d'où tu viens, ou si ça t'arrange, dans la plus proche dimension parallèle.
La vie est une jungle, tu sais.
On est bien chez soi, quand même.
C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop, plus moins calme.
La routine habituelle, quoi.
C'est monotone. Je m'ennuie.
Qu'est-ce qu'il y a, ça vous plaît pas?
Si, mais c'est tellement triste.
Triste? Pourquoi triste?
Ça me fait penser à ceux qui sont loin de chez eux.
Mais qui est loin de chez eux?
Je sais pas, tous ces gens qui sont obligés de quitter leur terre et qui se lancent à corps perdu sur les routes pour fuir l'oppression.
Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade.
Toi, malade? Mais toi, t'es jamais malade. Même les virus veulent pas de toi.
La seule maladie que t'as jamais eue, c'était des poux.
Alors vous croyez, madame Rémy, qu'un vrai médecin peut combattre une épidémie mondiale? À peu près comme le garde champêtre peut combattre un tremblement de terre.
Chronique des confins. Chronique des confins. Chronique des confins.